Salut les joueurs, nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle des jeux de société. Je suis Elodie et je suis accompagnée de Benoît Fix. Bonjour Benoît Fix.
Salut Elodie.
Et nous accueillons Joël Billieux qui est professeur en psychologie au CHU de Lausanne.
Bonjour. Oui, j'enseigne la psychologie à l'université de Lausanne, en fait, la psychologie clinique. Et je travaille effectivement aussi à l'hôpital universitaire de Lausanne dans un endroit qui s'appelle le Centre du jeu excessif.
Très bien. Eh ben, on va revenir sur tout ça juste après, mais comme d'habitude, on commence avec notre petit fil rouge et nos quatre petites questions qu'on pose à tous nos invités. La première, c'est si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ?
Probablement un deck building, parce que j'aime bien les jeux de rôle où on progresse, on gagne des trucs, on chope des trucs qui restent et tout ça, donc ouais, peut-être ça.
Si tu étais un thème de jeu ?
Un truc un peu horrifique des années 90, les vieux films série B, là, genre The Blob.
Ok.
Si tu étais un élément de jeu.
Un D20, peut-être.
On sent le rôliste. Hein.
Désolé.
Et si oh, mais non.
Ne le sois pas.
Et si tu étais un jeu.
Ouf, ça c'est super dur.
Ouais.
Arkham Horror, j'adore. Le deck building, justement.
Ok, je comprends.
Eh bien, merci. On l'a dit tout à l'heure, tu es professeur de psychologie clinique. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, déjà, comment tu en es arrivé là et quel est ton rapport au jeu, tu vois, comment tu es arrivé dans ce milieu aussi du jeu?
Alors, les deux étaient indépendants pendant un certain temps, hein. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment joueur depuis que je suis tout petit. J'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons avec mon papa à 10 ans, et puis ensuite tous les jeux de plateau, tout ça. Donc, j'ai toujours été passionné par le jeu. Puis ensuite, j'ai fait des études de psychologie, et je vais pas dire pourquoi, parce que je sais pas vraiment pourquoi en vrai. Et à un moment donné, j'ai fait une thèse de doctorat qui s'intéressait à l'impulsivité. Et donc, les conduites sur lesquelles on perd un peu le contrôle et tout ça, et finalement, les conduites addictives, et notamment le jeu d'argent dans sa version problématique était un bon champ d'étude pour l'impulsivité. Ça m'a amené là-dessus, et puis après il y a eu les jeux massivement multijoueurs, World of Warcraft, là on est 2005-2010, où il y a les premières personnes qui arrivaient vraiment avec des difficultés à contrôler l'implication dans ce genre de jeu, et puis moi je me suis dit mais ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler, parce que j'avais la double étiquette, entre guillemets, de joueur et puis aussi de chercheur. Et puis, c'est ça qui m'a un peu amené à m'intéresser à tout ça, quoi.
Et donc, comment un professeur de psychologie clinique se retrouve au Festival des Jeux de Cannes?
Ben, comme joueur, hein. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que j'ai commencé il y a 6 ans et j'ai jamais arrêté. Donc, j'ai fait toutes les éditions depuis 6 ans. Je suis vraiment venu parce que j'ai des amis qui m'ont dit, on va au FIGE jouer, c'est sympa. Et je suis venu comme ça. Et puis après, on a eu les projets de recherche dont je vais vous parler, qui ont reçu un intérêt de la part des organisateurs et des organisatrices du FIGE. Et puis, on a été invité à amener cette escape game sur place et puis ensuite à parler de notre projet qui utilise le jeu de rôle sur table comme un outil psychothérapeutique. Et voilà, on a fait ça pour la première fois l'année passée et on était réinvité cette année. Donc maintenant, je dirais, j'ai une double casquette aussi au FIGE, ce qui fait que je joue un peu moins malheureusement, mais par contre, c'est vraiment intéressant d'avoir ce public ici qui est pas du tout le même public qu'on rencontre habituellement, parce qu'on a des gens ceux qui viennent nous voir, ils sont à la fois intéressés par des aspects psychosociaux, des éducateurs, des enseignants, des infirmiers, des psychologues, etc. Mais ils ont cette connaissance vraiment assez forte du jeu qui font que c'est très dynamique. Et honnêtement, moi, on apprend plein de choses ici aussi sur la qu'on intègre après dans nos recherches. Donc c'est super intéressant comme lieu d'étude en fait.
Ouais, tout à fait. Tu parles du coup de l'escape game que vous proposez sur le festival. On a eu la chance de venir voir un petit peu à quoi ça ressemblait tout à l'heure. Et donc c'est une escape game qui est là pour sensibiliser les enfants de 6 à 10 ans sur l'utilisation des écrans. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu déjà la démarche et du coup pourquoi le jeu immersif plutôt qu'une campagne de prévention un peu plus classique? Qu'est-ce que ça peut apporter en plus?
Ouais, alors ici, avec ce qu'on propose, on est aussi avant qu'il y ait les étapes de prévention traditionnelles qu'on retrouve à l'école à partir de 12 ans, etc. Donc là, on voulait vraiment aussi être à un moment donné où les enfants n'ont pas encore forcément de smartphone, donc des enfants plus jeunes. Et puis, on voulait avoir aussi un design, un setting, pardon, qui allait permettre de donner envie aux enfants de venir voir de quoi il s'agit. Donc effectivement, on leur présente pas les trucs en disant on va parler de votre temps d'écran ou de votre usage d'écran, mais plutôt on va faire un jeu autour d'une île de pirates où il y a un enfant emprisonné, vous allez devoir... Et en fait, toute l'idée, c'est d'utiliser des mécaniques ludiques pour distiller de l'information. C'est-à-dire que dans le jeu, ils vont pas faire des activités autour du temps d'écran, autour des risques liés aux microtransactions, etc. Ils vont faire des vrais jeux collaboratifs où ils sont ensemble, ils doivent résoudre des tâches, ils doivent s'amuser, mais on va, dans ce contexte-là, donner un certain nombre d'informations sur, voilà, il peut y avoir des contenus choquants sur Internet, c'est important de pouvoir en parler si ça arrive. Il y a, quand on a par exemple un petit exercice où il y a un animal dont on peut faire une photo, et puis après, qu'est-ce qui se passe si on donne la photo plus loin sur les réseaux sociaux, il finit enfermé dans un zoo, c'est pour sensibiliser au risque de la perte de l'image. À la fin, pour vous donner, ah oui, j'ai oublié de dire le principal, hein. Les enfants arrivent, les animatrices, elles sont déguisées en pirates, il y a de la musique, tout ça est très immersif, c'est vraiment, et en vrai, les enfants sont assez contents d'arriver là-bas, et s'attendent peut-être pas forcément à avoir des contenus plus éducatifs, on va dire. Puis même à la fin, on finit avec une photo de pirate où ils peuvent ou non, parce qu'ils ont le choix évidemment, faire une photo, et la photo, on l'a fait avec un Polaroid pour une fois de plus sensibiliser au fait que là, s'ils prennent la photo, il n'y a que eux finalement qui ont cette photo, et puis c'est pas qu'elle est disponible pour les IA et n'importe qui d'autre sur Internet.
Comment une idée comme ça naît? Vous êtes parti de quel constat? Comment vous arrivez à vous dire l'escape game, c'est le bon média pour passer ce message-là et pour essayer de faire ce... J'imagine que ça part de constat, ça part d'études peut-être précédentes aussi.
Oui, alors ça part d'une situation de terrain où il y avait pas mal de demandes, notamment des parents qui finissaient dans différents endroits, que ce soit à l'hôpital, chez les médecins généralistes. Enfin, bref, il y a une demande qui arrive à différents endroits. Et mes collègues, parce que moi, je suis arrivé dans la démarche plus tard pour l'escape game. Je suis arrivé uniquement au moment où il valait évaluer son efficacité dans une perspective de recherche. Donc mes collègues, la docteure Melina Andronikos du CHUV et les autres personnes qui travaillent avec elle, ont voulu aller proposer quelque chose pour répondre à un besoin identifié avec un outil de prévention qui n'avait pas d'équivalent encore. Donc l'idée, c'est vraiment de le déployer dans des endroits comme les musées, comme des châteaux, comme des écoles, comme le FIGE, pour aussi avoir un endroit où on amène des enfants qui potentiellement sont beaucoup dans des activités écran, et les amener dans un endroit où ils vont pouvoir aussi créer du lien social, discuter avec d'autres personnes et tout ça. Et on arrive aussi à un moment donné avant justement ce qui se fait de manière automatique à l'école et autres. Après, les idées, c'est que les préventologues de ce centre-là aussi connaissaient la littérature scientifique sur l'effet motivationnel du jeu, l'engagement, l'immersion, et ont capitalisé sur ces choses-là pour créer leur propre outil de prévention.
Et comment un escape est aussi un objet de recherche? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous analysez est-ce que vous analysez le comportement des enfants? Qu'est-ce que vous récupérez comme données quand les enfants jouent cet escape?
Oui. Alors, dans un premier temps, on a eu les aspects de faisabilité, voir si vraiment ça fonctionnait, on arrivait à garder les enfants, etc. Maintenant, j'ai oublié de le dire, mais il y a plus de 1700 enfants qui ont passé ces escapes en Suisse, romande. Et on a essayé d'avoir des données sur ce qu'on va appeler l'efficacité initiale. Donc, c'est pas un gros projet de recherche avec un suivi longitudinal et tout le bazar, mais c'est des premières données qu'on obtient sur ce qui se passe dans cet atelier de prévention. Ce qu'on note, c'est qu'on va prendre des données sur les usages des écrans, le temps par jour, le type d'activité privilégiée, toutes ces choses-là, pour voir un peu le profil des personnes et des enfants qui viennent. Alors, pour vous donner de tête, on est environ avec des enfants qui utilisent 8 heures par semaine des écrans, mais avec une grande hétérogénéité, en fait. Ça, c'est une moyenne, et les moyennes, c'est des mauvais indicateurs, en vrai. Donc, il y a une très grande hétérogénéité avec des enfants qui utilisent beaucoup plus et des un peu moins, etc. Et puis ensuite, on va essayer de de voir dans quelle mesure les exercices et ce qu'on a utilisé développent des connaissances. Et comment on fait ? On fait une évaluation basique avant et après sur un certain nombre de points qu'on a déterminés ensemble. Quand je dis basique, c'est qu'on est sur des gamins 6 à 10 ans, donc faut pas faire un questionnaire de 20 minutes avec 412 questions, parce que sinon on est mort. Donc on a vraiment dû choisir quelques questions qu'on a dû reformuler, pré-tester, etc. Et puis au début, on posait la question aux enfants. On disait, ah mais finalement, est-ce que le temps que tu passes sur un écran, ça pourrait t'assécher l'œil ou te faire t'endormir plus tard parce que ça t'excite, etc. Et on a vu que des fois, il y avait un peu des réticences. On s'est dit, mais peut-être qu'ils ont peur qu'après on dise ça à leurs parents, quelque chose comme ça. Donc ensuite, on a dit, ah, mais finalement, est-ce que on pourrait pas poser les questions en leur demandant de penser à un copain? Mais là aussi, finalement, penser à un copain, ils avaient peur de dire le nom d'un copain qui pourrait lui-même se faire dénoncer. Donc la solution finale, ça a été d'imaginer un copain un peu imaginaire qui passerait un certain temps de temps sur son écran, qu'est-ce qui pourrait lui arriver. Puis on a 12 questions avant, 12 questions après, elles abordent de trucs aussi différents que, je sais pas, l'impact qu'on pourrait avoir sur le sommeil, le fait d'être pouvoir être confronté à des contenus inappropriés ou choquants, le fait de se faire harceler ou se faire insulter, voilà. Et puis on mesure ça avant et après, et on voit quand même que une bonne partie des enfants, si vous voulez, on fait des analyses statistiques assez basiques, hein, qui montrent qu'on a des connaissances qui apparaissent après l'escape game, en gros, particulièrement en lien avec des choses comme l'impact sur le sommeil, ou aussi le fait que finalement on peut aller demander de l'aide par rapport à ça, ce genre de choses-là. On n'a pas une évaluation de suivi à un mois, trois mois, six mois, parce qu'on est vraiment dans une étape préliminaire du processus de recherche qui est associé à tout ça. Mais c'est un objectif futur, en fait. Parce qu'on est dans une situation, et je me permets de le dire parce que je pense que c'est important, où l'usage potentiellement excessif des médias est considéré comme un problème de santé publique, mais on a très peu de données scientifiques sur les aspects de prévention qui fonctionnent. Et on a des politiques qui vont aller, par exemple, vous avez probablement entendu parler, on va interdire les réseaux à 16 ans, à 15 ans, etc. C'est vraiment pas des approches empiriquement fondées, c'est probablement des approches hyper contre-productives, en fait. Et c'est vraiment dommage d'aller vers des choses comme ça, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin, en tant que scientifique, c'est nécessaire, je pense que ça devrait être notre priorité, d'aller montrer en quoi l'éducation, la prévention, des interventions spécifiques, des éducations digitales, enfin tout ce genre de choses-là doivent être implémentées de manière plus systématique, mais aussi avoir un degré de support scientifique pour éviter d'avoir ce qu'on voit actuellement, en fait, finalement. Et oui, puis là, voilà.
C'est contre-productif parce que ça crée un arrêt brutal et du coup, c'est pour des personnes qui l'utilisaient peut-être mal, mais qui se retrouvent du jour au lendemain avec quelque chose qui est complètement enlevé et ça crée un effet de manque démultiplié, quoi.
Ouais, alors disons, ça va aussi créer des problèmes pour les gens qui l'utilisent bien. Ouais. Parce que, mais je commence volontairement par faire ce switch là, hein, parce que en fait, dans beaucoup de cas de figure, les activités en ligne, souvent on focalise sur l'écran, mais c'est pas une bonne idée. Hein. L'écran, c'est simplement un médium par lequel passent des activités. Donc on devrait focaliser sur le jeu, sur les réseaux sociaux, sur les séries TV, sur le porn, voilà. Et la plupart de ces activités-là, en fait, on peut s'y engager de manière assez intensive sans avoir ce que les psychologues cliniciens vont appeler un impact fonctionnel, c'est-à-dire des conséquences négatives dans la vie, quoi. Et donc, avec des restrictions, moi déjà, on peut aller finalement même, ça se questionne, quoi, hein, priver des gens qui l'utilisent bien d'un certain nombre de choses. Puis même dans les cas, et c'est tout à fait avéré, je veux dire, il y a plein de risques en ligne. Hein, je suis vraiment pas à dire le contraire, mais il faudrait d'abord peut-être réguler l'industrie. À un moment donné, l'industrie devrait être responsable des contenus qui sont présents, devrait modérer, on devrait limiter l'utilisation de mécaniques prédatrices, de mécanismes de captation de l'attention, de mécanismes qui nous font perdre le contrôle, tout ce genre de choses-là, avant de dire la responsabilité est sur les utilisateurs et les utilisatrices. Puis la prohibition ou l'interdiction, on sait avec l'exemple du cannabis, de l'alcool, etc., que c'est pas un truc qui marche très bien. Et pour vous donner une idée, puis après j'arrête avec ça.
Non, c'est passionnant.
Ok,
continuez.
Alors, Australie, ils ont interdit à 16 ans. On n'a pas de retour avec des données vraiment claires sur ce qui s'est passé pour pouvoir dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un déplacement de l'activité en ligne vers d'autres plateformes comme Roblox, comme certains sites avec des contenus pornographiques, comme certains jeux libre d'accès avec des mécanismes prédateurs. Donc en fait, il y a d'autres types de risques. Et en fait, et sans parler de tous les VPN, les manières de contourner, les voilà, bref. Donc et ça, c'est vraiment dommage, à mon sens, hein, d'aller vers des approches de ce type-là. Et c'est un peu comme ça que ça éclate en Europe, hein, dans tous les pays, ils commencent à s'y mettre parce que je pense qu'il y a une réaction un peu de peur, puis aussi un intérêt politique et financier à fonctionner de cette manière-là, plutôt que d'imposer des régulations strictes à l'industrie. Parce que oui, il y a des gros problèmes sur la conceptualisation des applications, certaines applications de réseaux sociaux et tout ça, quoi. Hein. Je veux dire, on a plein d'exemples. Voilà.
Oui, donc la nuance, c'est vraiment l'utilisation plus que... Enfin, c'est plutôt la manière d'utiliser ces médias et ces vecteurs plutôt que l'utilisation de ces médias en eux-mêmes. C'est vraiment voilà. Une question d'équilibre et de ouais. Bon usage, quoi.
Tout à fait. Et vous mettez vraiment le doigt sur un point central. C'est la manière aussi dont les parents ou les proches ou les enseignants ou que, peu importe, encadrent ces activités. C'est pas le temps d'écran qui importe. C'est qu'est-ce qu'on fait derrière son écran. On peut avoir 2 heures de temps d'écran destructrice ou 2 heures de temps d'écran qui vont permettre à la personne d'assouvir des besoins d'autonomie, d'affiliation sociale, de compétences et des trucs super chouettes. C'est pour ça aussi, quand on va encadrer, on voit, nous, en clinique, on voit souvent des cas de figure où des parents, ils amènent un enfant en disant, voilà, j'ai éteint le wifi, elle a tout cassé, il a tout cassé dans sa chambre, mon enfant, il est cassé, faites quelque chose, il y a un trouble, enfin, c'est, voilà. Alors qu'en fait, un exemple que j'aime bien prendre, c'est voilà, votre fille, elle fait du foot, elle a 3 entraînements par semaine, elle fait un match, elle est super efficace et tout, puis tout d'un coup, sans aucune raison, l'entraîneur la sort du terrain. Bah oui, elle va avoir une réaction de colère probablement justifiée due à une frustration intense. Bah de la même manière, si on joue avec nos enfants, si on sait combien de temps dure une partie de Fortnite, on va pas dire joue une heure, on va dire fais un game ou 2 games. Et puis ces connaissances là, elles sont importantes pour pouvoir encadrer les activités en ligne. Et donc voilà, il y a tout, c'est complexe, mais souvent ça passe par une compréhension de ce qui est fait, une discussion,
puis un échange, de faire ensemble voir ce que c'est Fortnite.
Bah voilà.
Faire une partie, se faire traiter voilà. De gros naze parce qu'on est complètement nul. Ma nièce a essayé de m'apprendre. Je l'ai jamais vu autant rigoler parce qu'elle était vraiment t'es mauvaise, tata.
Ouais. Bah ouais.
Et alors... au moins on a fait ensemble et j'ai eu moins peur de ce qu'elle faisait. En plus, elle est hyper bonne.
Bah ouais.
Donc c'est hyper valorisant pour elle.
C'est clair. Et puis elle a pu vous montrer en quoi elle était compétente
dans
cette activité.
C'était...
Et vous avez posé un regard pas naturellement négatif sur cette activité.
Bien
et
sûr
ça,
que
c'est,
non.
Et c'est ça qui peut commencer à créer un dialogue en fait. Hein, souvent, si un parent emmène un enfant en thérapie. Peut-être un des premiers trucs qu'il faudrait dire, c'est explique à ta maman à quoi tu joues, pourquoi, c'est quoi ton perso, c'est quoi que tu recherches, à quel jeu, ça, parce que même le même jeu, on peut y jouer pour des raisons très différentes. Hein. Fortnite, les gens pensent que c'est un truc où on se tire dessus et que c'est violent. Alors qu'en vrai, à un moment donné, c'est quasiment une cour de préau où les gens se retrouvent après l'école. Donc voilà. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des situations problématiques et tout ça. Je veux nuancer tout ça, mais il y a souvent une incompréhension en fait d'un certain nombre de choses qui fait que l'intervention, elle va pas être appropriée.
Et puis je pense aussi que parfois on fait pas assez confiance en l'intelligence des enfants qui savent quand même mettre, pour la plupart, hein, quand c'est des enfants qui vont bien, la violence et savoir que c'est qu'un jeu et que, enfin voilà, elle va pas aller, je reprends l'exemple de ma nièce, je sais qu'à aucun moment elle va prendre une Kalachnikov et tirer sur tout le monde dans la rue, quoi. Ça va pas l'amener à être violente de jouer à ça.
Alors il y a 2 choses différentes, hein. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites. Les études scientifiques qui se sont intéressés à voir un lien entre jeux vidéo violents et agressivité dans la vie quotidienne ne sont pas concluantes à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'a pas de données empiriques suffisantes pour attester d'un lien de causalité entre jeux vidéo violents et violence dans la vie quotidienne. Ça, c'est tout à fait juste. Par contre, faut quand même garder en tête que certains jeux et leur contenu ne sont pas appropriés pour tous les âges et puis que c'est la responsabilité des gens de pas mettre un jeu PEGI 16+18 dans n'importe quelle main. Il y a des trucs qui peuvent être potentiellement traumatisants ou inappropriés pour des enfants d'un certain âge.
Oui, aller jouer à GTA à 12 ans, c'est pas possible, quoi.
Voilà. Et certains jeux de tir sont violents en vrai et d'autres pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas pareil si on fait un FPS qui implique des personnages de Walt Disney, d'un jeu où faut faire des headshots pour éclater la tête de quelqu'un qui va se répandre sur le mur, quoi, en gros. Donc, ça paraît évident, mais voilà. Donc, je veux juste faire la distinction entre les deux.
Non, c'est très intéressant. Et, enfin, si je résume ou si je comprends bien, le plus important, finalement, c'est pas tant d'autoriser ou d'interdire les écrans, mais c'est de permettre d'offrir des outils aux enfants de justement avoir des lieux où ils peuvent échanger, de d'ouvrir leur esprit critique aussi sur d'analyser en fait, de leur apporter une analyse, une prise de recul sur ce que sur leur usage et sur les usages que les gens autour d'eux peuvent avoir de ces médias-là.
C'est une très bonne synthèse et l'esprit critique me paraît encore plus important depuis quelques années, depuis deux ou trois. Et vous voyez où je veux en venir, c'est vraiment
pas du tout.
Voilà. Donc là, on est dans une période assez clé par rapport à ça et ça va être un défi contemporain important.
Ne serait-ce que par l'arrivée aussi des deepfakes, etc. Comment arriver à faire la part du vrai, du faux sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est quand même vraiment difficile. C'est déjà difficile pour nous adultes où on est censé être un petit peu aguerri.
C'est très préoccupant. Et c'est pour ça que un des premiers trucs que j'ai dit, c'est que c'est d'abord l'industrie qui devrait être régulée. Parce qu'on a toutes ces boucles algorithmiques qui visent à potentialiser l'engagement dans les réseaux sociaux. Pour prendre un exemple tragique récent, vous avez entendu parler de l'événement de Cran Montana à Nouvel An. Eh ben, vous regardez une vidéo avec des témoins, avec des scènes déchirantes, etc. L'algorithme va directement vous envoyer un autre. Vous êtes en très peu de temps inondé d'images. Puis là, on parle d'images potentiellement traumatiques. C'est-à-dire que l'engagement avec ce genre d'images répétées va créer chez pratiquement tout le monde au minimum des émotions négatives, de la tristesse, de l'anxiété, etc. Et là, il y a une grande vulnérabilité, notamment chez les plus jeunes, à ces boucles algorithmiques extrêmement performantes. Et là, il y a des trucs auxquels il faut vraiment faire attention.
Et donc, je suis totalement d'accord. Et là, l'escape game, du coup, a cette vertu de... en fait, il n'y a pas une visée de vouloir changer les comportements. Il y a une volonté d'amorcer une réflexion, plutôt.
À nouveau, c'est très bien formulé et c'est pas une répétition d'escape game qu'on va viser, mais à un moment donné, si suite à cet escape game, un gamin va oser demander à sa maman quelque chose ou à un prof si les ressources sont pas disponibles à la maison, ou se dire bah tiens, si je fais ça le soir, je vais m'endormir 2 heures plus tard, etc. On espère qu'une partie des informations qui sont distillées sont ensuite partagées ou en tout cas utilisées. Après, pour être sûr que ça fonctionne, il nous faudra l'étude qui va suivre avec un suivi, mais basé sur la littérature existante, avec d'autres types d'études, etc. On peut quand même être assez confiant que ce qu'on fait a quand même un certain nombre d'impacts de ce type-là.
Et justement, c'est quoi la suite? C'est quoi la temporalité? Enfin, qu'est-ce que vous avez prévu pour poursuivre cette recherche finalement qui va amener cette...
Alors la temporalité, c'est maintenant on aimerait pouvoir documenter aux autorités de notre canton la demande, l'effet, la faisabilité initiaux, et puis soit prolonger avec une demande de financement type santé publique, etc., soit à ce que finalement, au niveau politique, il y ait déblocage de fonds pour pouvoir pérenniser ce genre d'activité, sachant qu'il y a une demande extrêmement importante. Et puis, sur le plan de la recherche, on va probablement déposer des fonds au Fonds national pour explorer avec plus de budget, plus de moyens, des designs plus expérimentaux ce qui se passe.
Et est-ce que vous avez des contacts avec... j'imagine que le FISH, c'est aussi cette occasion-là. Est-ce que vous avez des contacts avec des collègues, peut-être des chercheurs ou des universitaires en France qui sont un peu sur des thématiques similaires? Est-ce qu'il y a des échanges entre vous? Est-ce que le FISH est une occasion aussi pour ça?
Clairement. Et je dois dire que la première fois qu'on a fait des conférences l'année passée, je m'attendais pas forcément, alors qu'en fait c'est évident, mais je m'attendais pas forcément à avoir des retours aussi critiques, intéressants. Et des discussions avec des gens qui, justement, n'avaient pas que l'étiquette de psychologue ou que l'étiquette de gamer ou que l'étiquette d'infirmier ou de social ou d'enseignant, etc., mais des gens qui combinent ces différents intérêts. Et c'est ceux-là qui viennent souvent aux conférences, etc. Et on remarque que des gens font la même chose, en fait, un peu différemment. Mais dans leur pratique, ils le font d'une manière ou d'une autre. Et du coup, honnêtement, on a même fait des ajustements sur pas que sur l'escape game, mais sur un certain nombre de projets suite à des discussions hyper intéressantes avec des professionnels de différents secteurs rencontrés au FIJ, y compris des gens du monde du jeu, vraiment. Donc oui, c'est vraiment pour nous un... Je dirais que ça fait partie du processus de réflexion de notre recherche, d'être dans cet environnement hyper stimulant. Puis en plus, on peut jouer quand on n'a pas besoin de bosser, donc c'est top.
ça rajoute au plaisir, je suis d'accord. Donc ça, effectivement, c'est le premier sujet pour lequel on voulait t'inviter. Et cet après-midi... Tu animes aussi une conférence dont le sujet nous a aussi pas mal intéressé sur l'utilisation de Donjons et Dragons comme outil de thérapie. Concrètement, encore une fois, d'où vient l'idée et comment ça fonctionne concrètement?
Alors, en gros, on est dans un contexte au centre du jeu excessif et dans les milieux dans lesquels je bosse, on est sur les conduites excessives en ligne. Hein. Donc, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a 2 ans, l'OMS a même considéré le trouble du jeu vidéo comme un diagnostic
d'addiction.
Voilà. Et on est dans une situation où on a très peu d'interventions validées scientifiquement pour les personnes qui présenteraient ce genre de trouble. Alors là aussi, où je veux juste un peu débunker, la prévalence du trouble du jeu vidéo dans la population générale, elle est de l'ordre de 1%, hein, elle est pas de l'ordre de 10%, 15%, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche une minorité de personnes vulnérables pour différents types de facteurs environnementaux, personnels, etc. Et nous, notre objectif était d'essayer de développer un programme spécifique pour des joueurs problématiques, mais qui avaient un profil spécifique. C'est des gens avec aussi une forte anxiété sociale. Hein, on sait que chez beaucoup de gens, en fait, l'engagement excessif dans les jeux vidéo, c'est pas une addiction. Hein. C'est ce qu'on appelle une stratégie pour faire face à un autre problème. Je suis déprimé, je joue, ça me permet d'oublier mes ruminations négatives. Ou justement, je suis anxieuse sociale, et puis les situations d'interaction dans la vie quotidienne, elles sont hyper flippantes pour moi, mais par contre, quand je suis en ligne, quand je suis avec ma guilde, quand je suis dans mon raid, quand je suis avec les copains et les copines, eh ben j'arrive à être hyper affirmé, à être renforcé socialement et tout ça, au point que peut-être, dans un certain nombre de cas, je m'engage de manière un peu excessive dans ces trucs-là.
Et c'est pour ça que ce genre d'utilisation excessive, c'est souvent sur des jeux type MMORPG, avec la communauté, avec des interactions sociales.
Voilà. Alors, c'est ce qu'on pensait. Okay. Et c'est le cas dans beaucoup de cas de figure, mais pas seulement. On l'a appris après coup. Et en fait, ce que je voulais encore vous dire, effectivement, en lien avec ça, c'est qu'on a de plus en plus de personnes. Et là, on parle de cas quand même assez extrêmes, avec des replis sociaux vraiment très, très majeurs, un peu, qui pourraient même faire penser au phénomène de hikikomori, hein, qu'on retrouve au Japon. Mais là, c'est encore un peu différent parce que c'est un rejet volontaire de la société, etc. Mais enfin, bref, des gens qui sont extrêmement isolés et qui passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans les jeux en ligne et qui, au point qu'ils sont déscolarisés, enfin, etc. Nous, on voulait avoir une intervention non médicale à proposer à des personnes qui ont un jeu excessif et qui ont cette caractéristique-là. Faut savoir aussi qu'il y a un énorme, en anglais, on parle de treatment gap. Ça veut dire qu'il y a très peu de personnes qui vont consulter par rapport au nombre de personnes qui ont des problèmes. D'autant plus pour des choses comme le trouble du jeu vidéo, parce que c'est pas connu que c'est forcément un trouble, etc. Donc nous, on s'est dit, mais en fait, si vous prenez les jeux vidéo, une bonne partie de leur mécanique, elles viennent du jeu de plateau et du jeu de rôle. Hein. Alors encore plus pour les MMORPG, les online RPG et compagnie, mais même globalement, il y a beaucoup de mécaniques similaires. Donc nous, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas, en fait, donner envie à des gens de venir dans quelque chose de potentiellement thérapeutique en prenant le jeu comme amorce, et puis ensuite les amener dans un truc où on va avoir une réflexion sur leur pratique de jeu ou bien pouvoir travailler avec eux. Donc c'est aussi à partir un peu de cette idée, parce que finalement, pour des gens qui font des online RPG, aller jouer à Donjons et Dragons, ça peut être un truc motivant, quoi. Alors c'est dans cette optique-là qu'on a développé le programme, mais c'est pas juste jouer à Donjons et Dragons, d'accord ? On sait que le jeu de rôle, par essence, il mobilise plein de compétences différentes, cognitives, créatrices et tout ça. Mais nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment créer un programme utilisant le jeu de rôle sur table, mais pour mobiliser ce qu'on appelle des ingrédients de la thérapie cognitive et comportementale, en gros, qu'on utilise avec les anxieux sociaux et les anxieuses sociales. Donc en fait, on utilise le jeu de rôle comme un médium, on amène les gens ensemble, et ensuite, on va les entraîner à s'exposer à des situations sociales. Au début, ils doivent se présenter aux autres, ils créent leur personnage. Ensuite, ils doivent faire du roleplay sur leur personnage en expliquant, vraiment en mode roleplay, quoi. Et puis ensuite, on a créé notre programme avec des PNJ. Parce que dans les jeux de rôle, il y a des PNJ. Et puis voilà, le premier PNJ qui arrive est super sympa. Il est un peu creepy au début, c'est un druide. Il a des corbeaux sur lui, des racines et tout. Il est un peu creepy, mais en fait, il est super timide et assez sympa. Donc, c'est assez facile de parler avec lui. On va regarder si les joueurs et les joueuses vont interagir avec lui. En vrai, il va donner la suite pour aller plus loin. Hein, voilà. Et si certains ou certaines ne vont pas aller interagir, le druide va aller les chercher. Puis après, on va pas forcer si ça marche pas. Hein, j'ai oublié de dire, mais on a un système de consentement, un système de X-card, et on a des trucs comme ça pour sécuriser l'environnement. Hein. Et progressivement, ça va devenir un peu plus compliqué. Hein. Parce qu'à la fin, pour vous donner juste une image, ils vont rencontrer un infâme dragon vert hyper puissant, donc il est trop puissant pour eux, mais il est narcissique, hyper manipulateur, il est horrible, quoi. Et il faut quand même réussir à négocier avec ce dragon vert. Donc c'est, on va dire, le degré maximum un peu de difficulté au niveau de l'affirmation de soi. Et quand on travaille l'affirmation de soi avec des personnes anxieuses sociales, ça généralement facilite ensuite leur interaction dans les activités quotidiennes de la vie. Donc en fait, et là c'est vraiment, je vous fais la version courte, hein, mais on a plein de choses différentes dans ce truc là. Et puis notre idée, c'est pas de dire à partir de maintenant ils jouent à Donjons et Dragons toutes les semaines et on les soigne. On a un programme de 10 semaines dans lequel on veut essayer de voir si les personnes, elles arrivent à vivre positivement des expériences qui pour elles généralement sont stressantes, être avec des gens qu'on connaît pas, en espérant que si ça se passe pas trop mal, peut-être ces trucs-là vont ensuite être généralisés dans leur vie quotidienne. Peut-être certains vont continuer à jouer, d'autres pas, etc. Mais peut-être que certains vont dire « Ah oui, j'ai osé aller dans un bar et puis parler avec des gens que je connaissais pas. » Voilà, donc c'est un peu le principe général.
Et là, sur ces séances, est-ce que vous avez une sorte de... En début de séance, qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine? Est-ce que pour en termes de recherche, pour pouvoir justement voir comment ces personnes évoluent dans le temps, dans ces 10 séances?
Oui, bien sûr. Vous allez au nœud du problème. Alors en fait, d'un point de vue de la recherche, donc on a nos 10 séances de jeu, et puis chaque séance est assez standardisée. On a des objectifs progressifs, etc. Et notre maître de jeu va évaluer le comportement des joueurs et des joueuses sur un certain nombre d'objectifs qu'il faut atteindre et tout ça.
Le maître de jeu, pardon, c'est un thérapeute ou c'est quelqu'un qui est dans le...
Alors pour le certains vont vous dire peut-être qu'il faut forcément un thérapeute.
Non, c'est une question. Ouais,
c'est une vraie question. C'est une vraie question et ma réponse serait de dire il faut quelqu'un qui soit effectivement assez empathique, qui a une bonne expérience de maître de jeu parce que c'est pas ou de maîtresse de jeu parce que c'est pas forcément des situations simples. Et dans notre cas de figure, en fait, c'est un hématologue dans le projet pilote. Et donc c'est quelqu'un qui est hématologue, Jonathan Bloch, qui est hématologue à 80% et maître de jeu à 20%. Et donc un biclassé en fait dans le jargon. Et c'est quelqu'un qui est quand même confronté à la souffrance humaine dans des cas assez compliqués et tout ça. Donc qui va être empathique et puis qui a surtout une grande expérience de maître de jeu et qui est un copain depuis 30 ans. Donc on s'est lancé un peu ce défi ensemble et puis on a créé le programme ensemble. C'est clair que surtout si vous travaillez avec des personnes qui sont en souffrance, il faut faire attention qui va faire ce truc-là. Il faut être capable de percevoir quand quelqu'un va pas bien et ce genre de choses-là. Pour terminer sur le truc que vous m'aviez dit avant, il n'y a pas que le maître de jeu, en l'occurrence, dont on parle maintenant, ou la maîtresse de jeu qui évalue ce qui se passe. Parce qu'évidemment, on a un biais. Hein. Si moi, je veux observer ce qui se passe ici, puis que je donne mon sentiment subjectif de comment ça se passe, bah voilà, j'ai aussi un biais. Donc, sur le côté, on a une évaluation psychologique qui est menée, comme vous l'avez dit, chaque semaine, mais indépendamment des séances de jeu. C'est-à-dire que via leur smartphone ou via le mail, etc., on va leur poser un certain nombre de questions sur comment ça s'est passé cette semaine, est-ce qu'ils ont été dans des situations sociales, combien ils ont joué, est-ce qu'ils ont perdu leur contrôle sur les conduites de jeu. Bref, on évalue toute une série de choses, le sentiment de solitude. Donc, on a toute une série de variables qui sont des variables psychologiques évaluées par des outils standardisés et validés scientifiquement. Et notre maître de jeu, Jonathan, dans le cas de figure, il est aveugle par rapport à ces données-là. Donc lui, il maîtrise uniquement les séances avec les personnes. Et puis sur le côté, on a une évaluation qu'on appelle psychométrique des symptômes. Et ce que a montré notre étude, c'est que chez deux tiers environ des participants et des participantes, on a eu une réduction de l'usage problématique des jeux vidéo, pas forcément du temps, hein, à nouveau. Certains jouaient le même temps, mais sans que ça crée des soucis ou qu'ils aient de la honte ou ce genre de choses-là. Et puis aussi, on a pu observer une plus grande exposition aux situations sociales, même si elle n'était pas tout le temps diminuée, même si elle n'était pas tout le temps associée avec une diminution de la peur. Donc c'est comme si finalement, ces situations, elles sont quand même, voilà, elles sont effrayantes, etc., mais je m'y expose plus facilement.
J'ai peur, mais j'y vais.
Voilà. Et parfois, ça se passe pas si mal, en fait. Alors, en vrai, dans notre étude, dans le pilote, on avait 20 personnes. Sur les 20 personnes, on en a deux qui ont quitté le programme parce que c'était too much. La première séance, se retrouver avec ces personnes inconnues, directement ce qu'on appelle dans le jargon un drop-out, et c'est quelqu'un qu'on a réorienté vers un suivi individuel. Et puis, on a une autre personne qui, à partir du moment où les PNJ ont commencé à arriver et que ça devenait un peu challenging, a aussi quitté, ça devenait too much pour cette personne. Mais on a quand même 18 personnes qui ont fait 10 séances de 2 heures, 10 semaines de suite, et qui ont été d'accord de faire un suivi à 3 mois après notre étude. Ce qui, quand même, j'ai l'habitude de faire des études cliniques. C'est, on était content, quoi. On était content du résultat. C'est quand même assez, voilà, c'est un engagement qui est pas mineur. Et puis voilà, c'est encourageant, en fait.
Et là, les 3 mois sont passés ou on est encore
dedans? Alors oui, pour le pilote, les 3 mois sont passés. On a vu que chez une partie des gens, les bénéfices avaient diminué, mais étaient encore présents. Chez d'autres, les bénéfices s'étaient stabilisés. Ça va dépendre des trajectoires individuelles. Et puis, on a quand même du nouveau. Là, on a, pour la première fois, lancé le programme aux hôpitaux universitaires de Lausanne. C'est ce que je présenterai dans la conférence du FIGE, où on a vraiment travaillé avec des personnes qui peuvent être considérées comme des patients et des patientes. Hein, donc, des gens qui ont les critères du trouble du jeu vidéo, hein, ce qui n'était pas le cas dans le pilote où on a d'abord essayé en population qu'on appelle subclinique, hein, donc des gens stressés, anxieux, qui jouent beaucoup mais qui sont pas, qui fonctionnent dans la vie en fait. Là, on est sur des gens qui jouent 10 à 15 heures par jour, qui sont déscolarisés ou chômeurs, chômeuses, qui ont une grande souffrance. Et on a fait un premier groupe de 5, 4 sont allés au bout, des 10 séances, on fait le suivi à 3 mois, et ont une expérience positive qui chez 3 d'entre eux s'est traduit par vraiment des gains. Au niveau en tout cas de la perception qu'ils ont de leurs compétences sociales, et ça semble vraiment avoir été une expérience qui décrivent selon leurs termes assez marquante dans le bon sens du terme. Donc mon objectif ici, ce serait d'essayer de pérenniser ce genre de groupe à l'hôpital, hein, surtout qu'on est vraiment dans une tendance à facilement médicaliser la santé mentale. Là, on est dans quelque chose qui, pour moi, est une intervention vraiment tout ce qui est, alors, pour le coup, absolument pas médicale. Et c'est vrai que parfois, c'est chez ces personnes, on va aller prescrire des médicaments, on va aller prescrire des voilà. Je pense que là, il y a vraiment moyen de créer du lien, créer des compétences. Et puis, je suis persuadé qu'il y a vraiment un avenir dans ce genre de choses-là. Et puis, on n'est vraiment pas les seuls à le faire. Hein. Si vous regardez au niveau mondial, il y a vraiment un intérêt, un regain d'intérêt pour l'utilisation ici du jeu de rôle dans des contextes de thérapie. Je vous donne un dernier exemple qui me vient en tête. Alors c'est un autre contexte, mais c'est aussi un projet auquel je travaille ici avec des anthropologues en fait. Ces anthropologues ont fait des ethnographies auprès de joueurs et de joueuses de jeux de rôle. Et notamment dans un article, on décrit le cas d'une femme transgenre qui a d'abord fait son processus de transition avec son personnage de Donjons et Dragons. Donc elle a expérimenté son genre idéal via un perso, regarder comment ça se passait, et puis en fait son perso a transitionné avant elle, et elle raconte avec des mots qui sont vraiment à la fois touchants et puis très justes et convaincants en quoi ça a été assez déterminant, cette expérience, dans tout son processus. Et donc voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment une richesse d'exploitation de ce médium dans des cas de figure très différents les uns des autres. Moi, je vous ai expliqué un cas très thérapie comportementale de l'anxiété, mais on peut aller vers des choses très différentes, quoi.
Oui, j'imagine que déjà vous en interne sur ce que vous faites sur la partie anxiété et jeux vidéo, ça s'affine aussi au fur et à mesure des groupes, et il y a peut-être aussi des ajustements sur le scénario, sur la manière de présenter les choses. Enfin, j'imagine que c'est quelque chose qui évolue aussi en permanence.
C'est un processus en co-construction. Les joueurs et les joueuses nous aident. Il y a des choses qu'on pensait qui allaient se passer d'une certaine manière qui se passent pas. Il y a des choses qu'on pensait qui seraient impossibles à faire qui finalement se sont produites plus aisément que possible. Oui, j'avais demandé à Jonathan, notre MJ, j'avais vraiment envie que le dernier module, ils arrivent dans une espèce de labyrinthe. On propose à chaque joueuse et chaque joueur de créer sa propre pièce et de la faire jouer comme MJ aux autres, avec un peu l'exposition maximale à la fin. Puis j'ai bien vu que Jonathan, il était un peu là, ouh là là, ça c'est quand même parmi nos potes, c'est pas tout le monde qui a déjà fait maître de jeu ou maîtresse de jeu, voilà. Et puis finalement, il y a eu un contexte très bienveillant. Hein, après c'est des gens, ils étaient aussi très timides, mais très bienveillants. Et pratiquement tout le monde a été jusque-là, a fait cette étape-là, alors qu'au début on pensait que ça allait peut-être un peu risqué. Et puis sinon il y a d'autres choses qui se sont pas passées comme prévu. On pensait que, mais comme dans les jeux de rôle classiques, hein, genre on pense que ça prend 2 heures, puis ça prend 3 heures, alors on a la session, puis voilà. Puis ils doivent quand même être les 5 au même moment, au même endroit. À un moment donné, quelqu'un avait la grippe, alors on l'a mis avec un zoom. Enfin bref, on a dû. C'est pas un protocole expérimental standardisé absolu. Hein, je veux dire, c'est la réalité du terrain aussi. C'est pour ça qu'on fait des analyses de cas uniques. On regarde vraiment pour chaque personne, plutôt que de faire une espèce de comparaison de groupe avec une condition contrôle, quoi. Et comme ça, on peut tenir compte du fait qu'une personne a loupé une séance, ce genre de choses là. Mais oui, il y a plein de défis. Mais voilà, et l'étape suivante, enfin, il y a deux étapes suivantes. Une, c'est un projet de recherche pour mener ce qu'on appelle un essai randomisé et contrôlé. Donc vraiment, on va essayer d'avoir une condition contrôle. On va comparer, par exemple, si on joue en ligne versus hors ligne, est-ce que ça fait une différence ? Enfin, bref, des choses de ce type-là. Dans le board game, il y a plein de trucs qu'on peut utiliser comme des conditions contrôle qui impliquent aucune interaction. Hein, les jeux de plateau, moi j'aime pas trop, mais ceux que j'appelle un peu play alone together, c'est les trucs où
chacun dans son coin.
J'ai joué à Koi là l'autre jour. Finalement, si j'étais seul, ça changeait pas grand-chose. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Excusez-moi.
mais voilà, on voit très bien le genre.
Voilà,
de jeu.
Pour moi, ça peut être des bonnes conditions contrôle qui ont pas mobilisé les compétences sociales, ce genre de choses là. Et l'autre aspect, c'est qu'on veut vraiment proposer une formation pilote pour les éducateurs, les enseignants, les enseignantes, les psychologues, les gens qui seraient intéressés à implémenter le jeu de rôle d'une manière ou d'une autre dans leur pratique d'éducateurs, d'éducatrices, d'enseignants, d'enseignantes, de psychologues, peu importe. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et en fait, il y a déjà plein de gens qui le font. Je me suis rendu compte, en lançant cette étude, j'ai commencé à être invité à droite à gauche. Je pensais pas que ça prendrait autant, je dois dire. Et en fait, quand je vais présenter ça à droite à gauche, il y a des gens qui disent, mais moi, je fais ça depuis 10 ans. Je savais pas qu'il y avait de la recherche là-dessus. Et en fait, du coup, c'est vraiment un outil puissant, en fait. Mais le jeu au sens large, hein. Là, je parle beaucoup de jeux de rôle, mais voilà.
Ouais. Alors, une question un peu plus délicate, mais du coup, on voit que t'es très enthousiaste et je pense que c'est le cas de tous les amateurs de jeux qui mettraient en place ce genre de thérapie, de solution. Comment on garde justement l'aspect aussi critique et l'aspect, parce qu'on a forcément un biais un peu d'enthousiasme, comment on s'assure que il y a des réels avantages et des réels effets sur les personnes. Tu parlais d'études randomisées, enfin de choses qui pour le coup sont très très documenté, très scientifique.
Ouais, t'as bien raison de me poser la question. En fait, nos études, cette étude, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'une, elle a été ce qu'on appelle pré-enregistrée. Ça veut dire qu'on a rendu disponible toutes nos hypothèses, tous nos plans expérimentaux, tout ça, avant de la réaliser, pour garantir la transparence et puis garantir la publication, même en absence de résultats. Et j'ai bien insisté sur le fait que ça marchait chez 2/3 des gens. Il y a 1/3 des gens chez qui ça semblait pas être efficace. Dans l'étude clinique, on a une personne chez qui ça a pas marché et une personne qui a abandonné. Et même en plus de ça, je suis vraiment très prudent. Pour l'instant, je ne vendrai pas une intervention de ce type-là. Je pense qu'on est vraiment dans les pas initiaux d'un processus de validation scientifique. C'est-à-dire qu'on a fait des analyses de cas multiples, après on va aller vers un essai randomisé et contrôlé. Il faudra voir dans quelle mesure des centres indépendants de nous montrent le même genre de résultats, mais ça existe déjà. Hein. J'ai oublié de vous le dire, c'est super important. Il y a je le présente tout à l'heure, il y a une quarantaine d'études au niveau mondial dans différents pays qui ont utilisé des designs comparables aux nôtres, dans des populations différentes, certaines avec des troubles du spectre de l'autisme, certaines avec simplement des jeunes pour voir dans quelle mesure ils expérimentaient des émotions positives. Enfin bref, il y a quand même une convergence de résultats intéressants. Mais on est dans un champ de recherche nouveau qui est assez hypé. Hein, il y a quand même un hype autour de ça. Et il y a beaucoup d'études qui ont des grosses faiblesses méthodologiques et qui ne sont justement pas préenregistrées et où on peut moins être confiant sur le fait qu'on n'a pas des biais comme ceux que vous mesurez. Donc voilà, je pense qu'il faut attendre encore quelques années, voir si on a une convergence d'études scientifiques de haute qualité qui confirme ça. Moi j'ai aucun problème à dire que je suis un passionné de jeux de rôle et puis que je crois au fait que ça marche, parce que quand on va analyser le jeu de rôle et qu'on voit ce qui est mobilisé comme type d'activité cognitive, on retrouve dans d'autres activités qui vont aussi créer des bénéfices. Donc en fait, l'idée c'est pas de dire le jeu de rôle c'est bien et ça aide. Oui, bien sûr, c'est bien. Mais là, on utilise ce médium d'une certaine manière pour amener les gens à faire quelque chose. Oui. Donc, c'est pas juste, je prends ma campagne, je joue 10 séances et voilà. Nous, notre programme, il est vraiment clé en main pour les personnes qui ont les difficultés que je vous ai décrites. Et si, par exemple, les personnes qu'on vise, c'est des personnes avec un trouble attentionnel, il faudrait faire le scénario de manière très différente. Et c'est pas l'interaction avec les PNJ qui demande de l'affirmation qui va être importante. Ça va être peut-être à ton tour avant de faire ton action que le suivant. Enfin bref. D'ailleurs, on est en train de réfléchir à ça. On aimerait étendre à d'autres populations type trouble autistique ou justement trouble attentionnel, mais ça va demander une refonte. À nouveau, on peut partir du jeu de rôle, mais donc ça dépend quel est votre objectif. C'est pas le truc en tant que tel.
Oui, c'est un outil qu'il faut utiliser correctement en fonction des personnes cibles.
Tout à fait. C'est pas la finalité, mais c'est pour moi un outil qu'on peut utiliser dans un contexte de santé mentale ou de psychothérapie. Et ça, c'est assez fondamental à comprendre. Parce que sinon, les gens vont vous dire, attendez, mais il s'agit juste de jouer 10 séances de D&D. Voilà, non, c'est pas ça la question. C'est que nous, on va vraiment utiliser ça comme un médium pour faire passer un certain nombre de choses.
Puis mais après, c'est pas du... Dans un cadre safe et dans un cadre sécurisant aussi. Parce qu'aller jouer à D&D avec des gens toxiques, ça ne soignera personne.
On est d'accord. On est d'accord. On est complètement d'accord.
Très clair. On arrive vers la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu espères que les gens retiennent justement de l'animation Escape, de la conférence sur Donjons et Dragons? C'est quoi les, si tu devais résumer un peu les messages que tu voulais faire passer en venant ici justement et en partageant ça à des publics qui peuvent être concernés ou non justement?
Alors je pense qu'on peut, si j'ai un seul message à garder, je dirais le jeu sous différentes formes peut avoir un effet très bénéfique pour la santé mentale. Ça, je dirais, c'est un seul message à garder. Et puis, si je m'adresse plutôt aux professionnels de l'éducation, de la santé mentale, voilà, le jeu peut être faire partie de votre boîte à outils, quoi. Le jeu, si vous l'utilisez bien, ça peut être un outil puissant pour aider les gens avec qui vous travaillez, pour aider vos étudiants, vos étudiantes, vos élèves, vos patients, vos patientes. Et il y a maintenant des recherches qui montrent que ça marche et des programmes que vous pouvez vous approprier pour essayer de l'implémenter dans votre métier, quoi.
Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en plus de ça?
Non, c'était super.
Un message à faire passer.
Un message à faire passer.
Non, mais c'est comme
non,
tu veux.
Non,
hein,
non. Merci de m'avoir invité. C'était super sympa. Et puis,
c'était un plaisir.
Voilà.
Super. Bah, merci beaucoup, Joël.
Merci à vous.
On arrive à la fin de l'interview. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.